York, mars 1953.
À l'attention du consul général des États-Unis d'Amérique, et le 10 novembre 1938.
Très cher monsieur le consul général, depuis hier, ils brûlent nos synagogues. Les nazis ont détruit mon magasin, chassé mes enfants de l'école, mis le feu à mon appartement, violé ma femme, écrasé mes testicules. Nous devons émigrer. Seriez-vous en mesure de nous procurer, sous 3 jours, des visas d'immigration pour les États-Unis? Respectueusement, Nathan Bronski.
À l'attention du juif polonais Nathan Bronski, le 10 juillet 1939.
Très cher monsieur Bronski, cela fait 8 mois que votre lettre urgente se trouve sur mon bureau. Aujourd'hui seulement, j'ai eu le temps de la lire. Malheureusement, je suis dans l'obligation de vous dire que concernant les chances d'une immigration rapide aux États-Unis pour vous et votre famille, c'est mal parti. Tout d'un coup, des centaines de milliers de juifs désirent entrer dans notre pays. Or, notre politique d'immigration est régie depuis les années 20 par un système de quotas subtilement étudié. Par conséquent, les listes d'attente de juifs persécutés sont longues, très longues. En remplissant et en me retournant les formulaires de demande au plus vite, le tour de la famille Bronski viendra, dans les conditions actuelles, dans environ 13 ans.
À l'attention du consul général des États-Unis d'Amérique.
Le consul général des États-Unis d'Amérique.
Le 12 juillet 1939. Très cher monsieur le consul général, le temps presse toujours plus. La guerre est aux portes. Je vois venir des choses horribles. Ayez pitié. Tous les jours, je discute avec mon ulcère. Il me parle de choses bizarres. Il me parle de chambres à gaz et de pelotons d'exécution. Il me parle de fumée noire. Les nazis vont exterminer tous les juifs. Ayez pitié, très cher monsieur le consul général, et envoyez-nous les visas d'immigration le plus vite possible.
À l'attention du juif polonais Nathan Bronski. Le 24 août 1939. Très cher monsieur Bronski, il est inutile de m'importuner avec vos lettres. Au fond, les gouvernements de tous les pays de cette planète se foutent royalement de savoir si vous vous faites tous massacrer ou non. En ce qui nous concerne, je n'ai qu'une chose à vous dire. Des bâtards juifs comme vous, nous en avons déjà suffisamment en Amérique. Renvoyez-moi les formulaires de demande et veuillez attendre 13 ans.
Je vous conseillerais de faire votre testament dès maintenant et d'y formuler le souhait d'immigration de la famille Bronski, de sorte qu'en 1952, votre exécuteur testamentaire puisse expédier vos cendres aux États-Unis conformément à vos voeux.
Je m'imagine le visage anguleux du consul général. Quand il lit les lettres des Juifs, ses yeux d'un bleu glacial luisent de lubricité. Quand il jette les lettres des Juifs dans la corbeille à papier, est-ce qu'il se branle? Je vois une gigantesque corbeille à papier avec les lettres des condamnés à mort. Je vois un torrent de larmes jaillir de la corbeille.
Folk America de Edgar Eisenrath avec Quentin Bayou dans le rôle de Jacob Bronski. Première partie.
J'ai envie de parler de ce consul général à quelqu'un. L'endroit idéal, ce serait la cafétéria des immigrants au coin de Broadway et de la 86e rue. Là-bas, tout le monde me connaît. Tout le monde sait. Lui, c'est Jacob Bronski, fils de Nathan Bronski. Voici ce que j'imagine. J'imagine que personne ne me connaît. Personne ne sait plus que je suis Jacob Bronski, fils de Nathan Bronski. Tout au fond, assis à la dernière table, il y a l'émigré Grunspan. Avant, il faisait dans le commerce du textile. En Amérique, Il fait vendeur chez Woolworths, par intérim seulement. Enfin, remplaçant, quoi. Actuellement au chômage. Je m'appelle Jacob Birnbaum. Ça fait un an que je suis en Amérique.
Vous venez d'Allemagne ?
Ouais.
Moi aussi, d'Allemagne.
Vous avez déjà entendu parler d'une certaine famille Bronski ?
Jamais entendu parler.
Une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Le vieux était commerçant. Sa femme était terrée dans sa cuisine. Il y avait aussi un fils, Jacob.
Normal, lui aussi ?
À l'époque, oui. Élève moyen, nul en sport, écrivant des poèmes.
S'il écrivait des poèmes, c'est qu'il n'était pas normal.
Après de la nuit de cristal, ils ont voulu aller en Amérique, mais les portes de l'Amérique étaient verrouillées. Devinez ce que sont devenus les Bronski.
Je suppose qu'ils ont été déportés par les nazis.
Ça se pourrait.
Je suppose qu'ils ont été gazés à Auschwitz.
Ça se pourrait.
Naturellement, il se peut aussi qu'ils aient été fusillés ou bien qu'ils aient crevé de faim dans un ghetto.
Il est possible aussi qu'ils aient survécu à la guerre.
C'est peut-être possible, mais peu probable.
Pourquoi peu probable ? Puisque d'autres ont survécu à la guerre, vous par exemple, ou moi.
Nous sommes des exceptions.
Supposons que les Bronski aient survécu à la guerre.
Allez, supposons. Et comment ont-ils survécu ?
Une ville allemande de taille moyenne. Un petit immeuble ancien. Là ne vivaient que des Allemands honnêtes.
Des ennemis des nazis ?
Des gens de la résistance passive qui savaient qu'on voulait assassiner les Bronski et qui se sont mis en tête de leur sauver la vie. Pendant des années, les Bronski se sont cachés dans la cave. Le vieux devenait mélancolique. La cave l'avait brisé. Lui et sa femme aussi.
Et Jacob ?
Jacob est devenu muet. Pendant des années, il n'a plus prononcé un seul mot.
Et il a écrit des poèmes ?
Non, Jacob n'a plus écrit de poèmes.
Votre histoire commence à m'intéresser. Continuez.
Un beau jour, la guerre était finie. Les Bronski sortirent de leur cave en titubant. C'était le printemps. Lorsque les Bronski virent le soleil pour la première fois depuis des années, le vieux Bronski voulut pleurer, mais il ne put. Sa femme aussi voulut pleurer, et Jacob aussi. Et rien n'y fit.
Donne-moi ton miroir.
Nos yeux ont changé. Ils n'ont plus d'éclat.
Je crois que nous avons perdu notre âme dans la cave.
Ils retournèrent dans la cave pour chercher leurs âmes, mais ne purent les trouver.
Continuez votre récit.
Ensuite, les Bronski se rendirent au cimetière juif. Là-bas, ils rencontrèrent un rabbin qui était très vieux.
Rabbin, nous avons perdu nos âmes. Nous les avons cherchées dans la cave, mais nous ne les avons pas trouvées.
C'est grave. Personne ne peut perdre son âme.
Pourtant, c'est ce qui nous est arrivé.
C'est juste une impression.
Nos yeux n'ont plus d'éclat.
C'est vrai.
Nous avons perdu nos âmes.
Non. Vous n'avez perdu que l'éclat.
Où est passé l'éclat de nos yeux ?
Il est là-haut.
Comment l'éclat a fait pour s'envoler comme ça ?
Il ne s'est pas envolé. Il a été emporté, c'est tout.
Par qui ?
Par les 6 millions.
Ensuite, que s'est-il passé ?
Un jour, les Bronski partirent pour l'Amérique, avec 13 ans de retard, avec des visas d'immigration valides et des yeux sans éclat.
Pourquoi allons-nous en Amérique au juste, maintenant que c'est fini ?
Je n'en sais rien.
À l'époque où nous avions besoin de l'Amérique, les portes étaient fermées. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'elle.
C'est un riche parent qui va chercher les Bronski. Il se pointe en Cadillac.
Qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux ?
Rien du tout. Ils ont perdu leur éclat, c'est tout.
Le riche parent les amena à Times Square. Et il leur montra les alignements de cinéma. Il leur montra également la 44e rue, avec ses grands théâtres.
À vrai dire, j'avais plutôt envie de voir la statue de la liberté. Tout à l'heure, en nous apercevant, elle s'est cachée dans le brouillard.
Tu la verras bientôt.
C'est là qu'on va ?
Oui.
Lorsque Nathan Bronski aperçut la statue de la liberté, pris de panique, un pet lui échappa.
Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a, Nathan?
C'est le consul général.
Tu es certain?
Absolument certain. Je voudrais lui toucher un mot, mais je ne parle pas anglais.
Tu sais bien deux mots?
Oui, très juste. Je sais deux mots d'anglais.
Nathan Bronski regarda le consul général droit dans les yeux. En faisant cela, il pensa à l'année 1939 et à la lettre qui avait enterré toutes ses espérances. Il pensa également aux quelques centaines de milliers qui, comme lui, dans leur malheur, avaient frappé à la porte de l'Amérique. Le grand pays de la liberté qui ne voulait pas d'eux.
Fuck America! Fuck America!
Fuck America!
Fuck America! Fuck America! Fuck America!
Fuck America!
Fuck America!
Fuck America!
Fuck America! Fuck America!
Fuck America!
Bronski.
Oui, merde.
Ton rayon dans le frigo est vide. Tu pourras emprunter un peu de café à Monsieur Zelig. Et du lait. Il remarquera rien. Qui note le niveau du lait ou du café? Et peut-être deux tranches de pain de mie. Qui en Amérique compte le nombre de tranches de pain de mie? Personne. Tu peux y aller tranquille.
Tu peux y aller tranquille.
Peut-être encore un œuf. En vertu de quoi Jacob Bronski n'aurait-il pas le droit de manger un œuf, lui aussi? Après, il sera temps de sortir. À l'agence de placement, tu décrocheras peut-être un job. L'idéal, ce serait un restaurant ou un bistrot. Service de nuit, bien entendu. Tu peux pas attendre demain, Bronski. Il te reste plus que 5 cents sans poche.
Avec 5 cents, t'iras pas bien loin, hein?
Bon sang, Bronski. T'as oublié que le bus coûte 15 cents?
Non.
Vas-y, Bronski, reste cool.
Ah ouais, merde.
Qu'est-ce qu'il y a, mec?
Rien du tout. Je suis pas dans le bon bus. Je voulais aller dans la 69e.
Alors t'es vraiment pas dans le bon bus. Moi, je vais downtown.
Vous pouvez me laisser descendre?
Pas possible, mon gars. Tu dois venir avec nous. Au prochain arrêt, je te laisse descendre.
Il faut que je paie?
Non. Mais faut que tu descendes au prochain arrêt.
Ok, mec.
Ce truc est infaillible. Plusieurs fois, je change de bus, et de cette façon, j'arrive jusqu'à Village Square. L'immeuble du 80 Warren Street est le point de rencontre de tous les clodos et ivrognes capables de se bouger le cul quand l'estomac gargouille trop ou quand leur gosier est à sec. Les longs couloirs puent la pisse, le whisky, la sueur et le vomi. Ici, on trouve plus de 40 agences de placement qui proposent les emplois les plus minables que cette métropole ait à offrir.
Zilberstein's Employment Agency.
Oh, alors.
Encore à sec, Bronski?
À sec, Mickey.
Mais 2 dollars, tu les as?
Non.
Désolé, Bronski. Pas de fric, pas de boulot.
Et t'es qu'un trou du cul, Mickey. Tu fais comme si je t'avais jamais remboursé mes dettes. Donne-moi un job et demain t'auras ton fric.
Bon, d'accord, Bronski. Mais c'est la dernière fois. Tu veux quel job?
Gardien de nuit.
Il est parti.
Serveur.
T'as un pantalon noir et une chemise blanche?
Ouais.
C'est un job pour une seule nuit. Bien payé. 40 dollars à coup sûr si t'es rapide. Tu dois y être à 6 heures, tapant. Pigé?
Pigé.
Voilà l'adresse. 200 Lexington Avenue, Barney Steakhouse. Tiens.
Ok. Barney Steakhouse. Mickey?
Quoi?
J'ai encore une chose à te demander, là. Prête-moi 2 jetons pour le métro. Sinon, je peux pas aller au boulot.
Tiens.
J'étais convaincu qu'à 8 heures, ils allaient me virer. Mais l'heure de pointe est arrivée. Et ni le boss, ni sa femme n'ont le temps de s'occuper de moi.
Ça fait une heure que nous attendons nos steaks.
Le seul qui m'observe sans arrêt, c'est spédé de maître d'hôtel.
Monsieur, vous êtes trompé dans l'addition.
Mais je suppose qu'il fera son rapport qu'à la toute fin du service.
Vous n'avez jamais commandé.
Et comme au petit matin, ils auront besoin de moi pour débarrasser la vaisselle sale, ils pourront pas me virer. Du coup, je pourrais rester jusqu'à la fermeture.
Cette salade a une odeur immonde.
Comprends.
Allez-y, santé.
Pourquoi vous proposez une carte avec autant de plats si vous ne servez que des steaks?
Mais regardez votre tenue.
Nous sommes pleins de vous, maître d'hôtel, et grâce à lui,
nous sommes pleins de vous, maître d'hôtel, et grâce à lui, nous savons comment vous vous appelez.
Le serveur le plus lent et le plus minable de toute l'Amérique.
On aurait dû vous virer hier, quand vous êtes arrivé en traînant des pieds.
Parfaitement.
Vous avez du bol, Brodsky, que toutes les agences aient été fermées. Impossible à ce moment-là de trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous croyez? Vous vous pointez la chemise sale, le pantalon froissé, les chaussures usées et pas rasées.
Je me suis rasé, monsieur. Mais la lame que j'ai empruntée était émoussée.
Mais je m'en branle!
Votre PD de maître d'hôtel m'a prêté un peu de poudre. Je me suis poudré la figure et aucun client n'a remarqué que j'étais mal rasé.
Mais vous voulez dire quoi par votre PD de maître d'hôtel? Il est pas PD?
Si, monsieur, il est pédé.
Parlons plutôt de votre chemise.
La chemise était propre. Juste usée au col.
Et votre pantalon?
Je l'ai lavé moi-même.
Mais pas repassé.
Non, monsieur. Mais je l'ai gardé sous mon oreiller pendant 2 nuits.
Et vos chaussures? Ce sont pas des chaussures de serveur. Les chaussures de serveur sont noires.
Après quelques temps, la couleur s'écaille. On n'y peut rien.
Bon, nous avons une carte très fournie, vous le savez pertinemment. Évidemment, la plupart des gens prennent des steaks parce que c'est ce qui fait notre réputation. Mais le client est libre de choisir ce qu'il veut.
Oui.
Ah, parfaitement, monsieur.
Alors, pourquoi avez-vous dit au client qu'on ne servait que des steaks?
Parce que je suis incapable de retenir autant de plats, monsieur. Servir des steaks à tout le monde, c'était plus simple.
C'est scandaleux!
Et puis, c'est quoi cette histoire d'huile? Un client de la 5 voulait plus d'huile sur sa salade, mais vous n'avez pas été fichu d'en trouver?
C'est exact, monsieur.
Donc, on est en plein rush, vous courez dans la cuisine et vous demandez de l'huile au plongeur. Mais comme le plongeur est portoricain et ne parle pas anglais, il vous montre du doigt la bouteille de liquide vaisselle et vous la prenez.
C'est vrai, monsieur. C'était du liquide vaisselle, mais qui ressemblait à s'y méprendre à de l'huile.
Vous avez servi du liquide vaisselle au client. Et ce client, plus tard, s'est mis à vomir. Il a appelé la police et maintenant, nous avons un procès sur le dos.
J'en suis sincèrement désolé, monsieur.
Ce n'est pas tout. Vous vous êtes trompé dans les additions. Les boissons de la 5, vous les avez mises sur l'addition de la 6.
Oh, c'est possible, monsieur.
Parce que vous n'avez pas noté les numéros de table au moment de prendre les commandes, j'imagine.
C'est quelque chose que j'oublie souvent, monsieur.
Mais quel genre de serveur êtes-vous, Brodsky? Naturellement, les clients de la 6 ont refusé de payer ces boissons. Une immense perte sèche.
Et puis, il ne faut pas se gratter le derrière en présence des clients.
Mais ça me démangeait, madame.
La prochaine fois, allez aux toilettes!
Voilà pour toi, Michael Silberstein. Tes 2 dollars et je t'en mets 3. Il faut qu'il me garde à la bonne. Lui me filera toujours un job. Brodsky, t'as pas le droit de t'en aimer. T'as de grands projets pour cette semaine. Tu dois travailler sur ton roman. Ton roman basé sur des événements que t'as vécu. Tu dois écrire, Jacob Brodsky. C'est important. Hier, tu t'es fait 47 balles.
47 balles?
Bien plus que ce que Silberstein avait prédit. Ça te maintiendra à flot pendant 2 semaines. Il faudra évidemment que tu règles les loyers en retard, mais tu le feras pas. Tu serviras une petite histoire à ta logeuse, Madame Bouchebaume.
Madame Bouchebaume.
Dame juive d'un certain âge, recherche locataire tranquille, emploi stable.
Bonjour, madame. Je viens pour la chambre à louer. J'ai lu votre annonce dans le journal des immigrants juifs allemands.
Je passe mes annonces exclusivement dans ce journal, par prudence. Aucun nègre ni aucun portoricain ne le lit.
Vous avez bien raison.
Vous avez un job?
Je suis représentant de commerce.
Vous gagnez bien?
Très bien.
Je loue 2 chambres. L'une est plus chère que l'autre. Malheureusement, la plus chère est déjà occupée par un certain monsieur Zelig, un juif de l'Est. La chambre moins chère est toujours vacante. En fait, ce n'est qu'une chambrette. Certainement pas assez bien pour vous.
Je pourrais toujours y jeter un œil.
Bah, bien entendu. Suivez-moi. Elle ne coûte que la moitié de celle de M. Zelig.
Ce qui fait
6 $.
Ah, je la prends.
Sûr, c'est pas trop modeste pour vous?
Non, je la prends.
Ah, vous pouvez vous servir de la salle de bain, de la cuisine aussi. Je ne suis jamais là dans la journée. Vous serez au calme ici. Monsieur Zelig est un locataire tranquille. Dès le jour de son emménagement, je lui ai dit pas de visite féminine.
Ah, je comprends.
Vous attendez de la visite féminine?
Non, je suis un locataire tranquille. Je mène une vie très rangée.
Une vie très rangée.
Alors, petit enfoiré, envie de tirer un coup vite fait?
Non, merci.
5 balles. Pas cher, 5 balles.
Non, merci.
Alors, 4 balles et je te suce à fond. Aujourd'hui, je te le fais pour pas cher. Parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle. Mon petit ami va revenir de Corée. On parle de paix.
Non, merci.
Alors, monsieur Bronski, quelle nouvelle aujourd'hui?
Hier, j'ai bossé comme serveur.
Ça gagne bien?
Magnifiquement bien. En une nuit, j'ai gagné 47 balles.
Comment peut-on gagner autant en une seule nuit?
Les pourboires, évidemment. Mais on triche aussi un peu, on se trompe dans les additions.
Naturellement.
Et le boss était très content de moi. Il a dit, Bronski, la semaine prochaine, notre maître d'hôtel prend sa retraite. À ce moment-là, vous pourrez avoir son job.
Il a vraiment dû être très content de vous. Monsieur Bronski, j'ai entendu dire que vous écriviez. C'est vrai, ça?
C'est vrai.
Peut-on savoir ce que vous écrivez?
Une sorte de roman basé sur des faits réels. Bien qu'il faille parfois prendre quelques libertés avec la réalité pour mieux la saisir.
Votre propre histoire?
Ouais. J'ai écrit une histoire sur les années de guerre.
Vous vous souvenez de tout avec précision?
C'est là que ça cloche, justement. J'ai du mal. Voyez-vous, cher monsieur Zelig, quelque part dans mes souvenirs, il y a comme un trou. Un grand trou noir. Et c'est par l'écriture que j'essaie de le combler.
Ça ne sera pas facile.
Ça n'est pas facile.
Que faire un samedi soir?
Je pourrais me rendre à Times Square, dans un cinéma à 2 sous, me taper une branlette. Je pourrais lever une petite pute. Je pourrais aller danser au Roseland, par exemple. Le plus raisonnable, c'est d'aller à la cafétéria des émigrants. Là-bas, je pourrais manger un morceau, pas cher et pas mauvais, et plus tard, vers minuit, je pourrais me retirer à la table du fond pour écrire. Entre-temps, j'aurais pu faire un brin de causette avec les émigrants. Monsieur Greenspan, vous n'avez rien remarqué?
Quoi donc?
C'est la première fois que je vois une femme parmi les émigrants.
Une connaissance de Monsieur Zelig.
Qu'elle est vieille, vous trouvez pas?
60 ans, je dirais.
On pourrait me bander les yeux que je la baiserai pas. Je préfère encore me taper une branlette.
Je parie, Monsieur Bronski, que cette vieille peau se fera sauter ce soir.
Par qui?
Par un émigré quelconque. Voyez-vous, ça fait des années que les émigrants vivent sans femme. Abstraction faite des petites gâteries d'une pute de temps en temps. Mais les putes, ça ne compte pas. Ce ne sont pas des femmes. Et pour une fois, les émigrants peuvent avoir une relation intime, chose rarissime en Amérique, du moins pour les gens comme nous. Que la femme ait 20 ans ou 60, peu importe, un trou, c'est un trou. Et vous, monsieur Bronski, vous allez sûrement vous faire une petite pute ce soir.
Je ne sais pas encore.
Comment ça? Un jeune homme comme vous.
Je dois rester économe. Je voudrais tenir 2 semaines. Et puis, à vrai dire, j'avais le projet d'aller voir un film à Times Square. Ça ne coûte que 80 cents. Je peux encore m'offrir ça.
Qu'est-ce que vous vouliez voir?
Le film avec Elizabeth Taylor.
Pour vous taper une branlette?
Bien vu.
Marilyn Monroe serait plus adaptée à cet usage.
Ouais, pas mon genre.
Vous avez écrit, monsieur Bronski?
Ouais.
C'est vous le héros du livre?
Ça se pourrait. Mais j'écris à la 3e personne, bien que le livre soit autobiographique.
Je comprends. Donc le héros est un homme?
Évidemment.
Mais quel genre d'homme?
Un homme solitaire.
Un branleur.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Un homme solitaire, c'est toujours un branleur.
Mais mon livre n'a rien à voir avec la branlette. C'est un livre grave.
Ça ne change rien. Si c'est un homme solitaire, c'est un branleur. Vous avez déjà le titre de votre livre ?
Pas encore.
Appelez votre livre « Le branleur ». Un titre de best-seller, un titre génial. Le branleur.
Le branleur ? Le branleur. Le branleur ?
Le branleur. Le branleur.
Le branleur.
Le branleur.
Le branleur.
Le branleur.
Le branleur.
Dis donc, petit, pourquoi tu mates ma queue noire ?
Je la mate pas.
Si tu la mates, tu veux la sucer un peu ?
Non.
Attention, petit, si tu veux pas la sucer, la mate pas, pigé ?
Je la mate pas.
Écoute, pour 3 balles, tu peux la sucer. Ça te dit ?
Non, rien du tout.
Je parie que ça fait pas longtemps que t'es là.
Exact.
Et tu viens d'où ?
D'Europe.
Ah, j'ai vu ça tout de suite.
Comment ça ?
Bah, ta braguette. Y a pas de zip, que des boutons.
T'as quelque chose contre les boutons ?
Non. Tu l'as acheté où, ton pantalon ?
À Paris.
J'ai connu un type qui a été à Paris. Il m'a dit que c'était une ville de fous. C'est vrai, ça ?
Une ville comme une autre. Sans thune, tu peux crever.
Mon pote m'a dit que tous les mecs français bouffent de la chatte. C'est vrai, ça ?
Je sais pas.
Je parie toi aussi.
Ça se pourrait.
Et prétentieux avec ça.
Ça se pourrait.
Fais gaffe de pas glisser sur le sol crasseux. Manquerait plus que tu brises la nuque. Toi, Jacob Bromsky, qui a survécu à la guerre, ce serait le bouquet. Mourir ici, après tout ça.
Le rescapé Jacob Bromsky est mort dans les toilettes pour hommes du Donald's Pub à Times Square. Une mauvaise chute. Il est mort dans un pantalon de Paris informe, au bouton démodé. Il a été trouvé dans le pantalon du défunt, un porte-monnaie contenant 2 dollars, un crayon en bout de course, ainsi que quelques feuilles de papier gribouillées. Écriture illisible.
Dehors, la foule qui passe dans la 42e rue tout illuminée. La rue des cinémas à dessous, des néons clignotants. Des embouteillages, des snacks, des macros, des filles qui tapinent, des pédales. Toi, Jacob Bromsky, tu vois ce monde irréel sans que lui puisse te voir. De l'autre côté de la rue, une affiche géante d'Humphrey Bogart. Bogart sous les feux des projecteurs. Sourire viril aux lèvres, souverainement cool. On va y arriver, baby. Tiens bon. J'ai la bite en main. Tu vois mon gros calibre ? C'est ça, ta pigé ? Écoute, Bromsky. Essaie de te rappeler, pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Nom d'un chien. Il y a un trou dans ta mémoire. Un trou noir, un gouffre. Essaie de le combler. Fais-les sortir du gouffre. Ces événements que tu as enfouis.
T'écris quoi, petit ?
Ça te regarde pas.
Moi, entre-temps, je me suis fait un peu de blé.
Aux toilettes pour hommes ?
Bien sûr. Au fait, t'as quel âge ?
27.
Bon, à qui tu veux faire croire ça ?
À personne.
T'es juif ?
Ouais.
T'as une baraque sur Long Island ?
Non.
Comment ça se fait ?
J'en sais rien.
Tous les juifs ont une baraque sur Long Island.
Mais moi, non.
J'ai tout de suite vu que t'étais juif tout à l'heure aux chiottes.
Et comment ça ?
T'habites. T'es circoncis.
Beaucoup de gens ont l'habit circoncis sans être forcément juif.
Pas fou. T'as un job ?
Non.
T'as pas envie de bosser, hein ?
Eh ben, pour une fois, t'as raison.
Et tu vis de quoi ?
C'est mon affaire, ça.
Ça t'arrive de tapiner ?
Non.
Écoute, petit. Si tu te payes ma tête, je te colle un pain.
Je te le déconseille.
Tu sais te défendre.
Ouais.
J'y crois pas.
Crois ce que tu veux.
Ça fait vraiment 1 an que t'es là ?
Ouais. 1 an.
Pendant la guerre, t'étais où ?
Là-bas.
C'est vrai qu'ils te l'aient ragazé les juifs ?
C'est vrai.
Pourquoi il t'a pas gazé ?
J'ai eu du bol, faut croire.
T'as sauté de la chambre à gaz, c'est ça?
Probablement.
Tu te rappelles plus?
Non. Plus du tout.
Bronski, le chapitre 5 est bien entamé. T'as rayé des phrases superflues, t'as corrigé, souligné, t'as travaillé sur ton propre système de ponctuation. Prose économe, concision extrême, mots justes, phrases comme des squelettes, nettoyées, phrases qui tapent dans le mille. Aujourd'hui, je terminerai le chapitre 5. Aucun doute, j'écrirai toute la nuit. Mais là, Bronski, t'as besoin de dîner. Et t'as plus qu'un malheureux dollar en poche.
Je vais commencer par un drink.
Naturellement, monsieur. Puis-je vous faire une suggestion?
Non, merci, je sais ce que je veux.
Je vous écoute, monsieur.
Un martini avec une double dose de gin.
Très bien, monsieur.
Mais pas de cerise. Une olive, hein?
Monsieur, cela va de soi. On ne sert pas un martini avec une cerise. Vous plaisantez, je suppose.
Évidemment, je plaisante.
Autour de moi, quelques clients me regardent, me jaugent, mais restent de glace. Je n'ose pas lever les bras pour éviter qu'on voit les taches sous les aisselles. Je bouge le gros orteil. Je sens le trou dans la chaussette. Je regarde dans le vide, m'efforçant d'avoir l'air cool. Je joue nerveusement avec ma bite.
Garçon ?
Je commande un deuxième drink, mais renonce au troisième parce que, comme je veux écrire ce soir, j'ai besoin d'avoir les idées claires.
Vous désirez un autre apéritif, monsieur ?
Non, maintenant je veux manger.
Puis-je vous faire une suggestion, monsieur ?
Suggérez.
Nous avons une bouillabaisse excellente, monsieur.
Je sais, j'en ai déjà mangé ici très souvent, mais pas aujourd'hui. Je vais commencer avec des limaces.
Des escargots ?
Des escargots.
Très bien, monsieur.
Après, je prendrai un coq au vin.
Puis-je vous conseiller un vin qui accompagnera parfaitement votre coq au vin ?
Bien entendu.
Nous avons un excellent Bordeaux blanc.
Avec la viande, je ne bois que du rouge.
Je vous comprends, monsieur, mais chez nous, le coq au vin est toujours servi avec du vin blanc.
Et j'ai pas envie d'un vin blanc.
Alors, je vous conseillerais l'un de nos champagnes, un Veuve Clicquot.
La Veuve Clicquot fera parfaitement l'affaire.
Très bien, monsieur.
Le repas a été servi avec discrétion. Le champagne débouché dans les règles de l'art. J'en ai pas bu beaucoup, puisque je veux garder les idées claires. Au lieu de quoi, j'ai mangé avec plaisir, fumé entre les plats, pris mon temps. J'ai commandé un plateau de fromage, camembert, brie, gruyère, puis une mousse au chocolat, un expresso et un petit verre d'Armagnac.
Garçon ?
Oui, monsieur.
Puis-je garder ma table jusqu'à 23 heures, car j'attends une dame ?
Bien entendu, monsieur.
Seulement, je me fais du souci pour ma voiture parce que j'ai dépassé le temps de stationnement.
Où se trouve votre voiture, monsieur ?
Juste à côté.
À votre place, j'irai vite voir pour mettre une pièce dans le rodateur. Cela nous embarrasserait beaucoup, monsieur, si vous aviez une contravention.
Vous avez raison. Je vais sortir jeter un œil.
Très bien, monsieur.
Pendant ce temps, apportez-moi un autre expresso et un autre Armagnac.
Très bien, monsieur.
Maintenant, Bronski, continue d'avoir l'air cool. Une fois dehors, tu pourras courir. Je note rarement des choses dans mon journal intime. La plupart des feuilles sont vierges, ont un aspect énigmatique et dégagent des mystères. Du papier blanc à dessous de chez Woolworth.
Hier, le 23 juin 1953, Jacob Bronski a fini le chapitre 5. Le branleur progresse.
J'ai besoin d'un nouveau crayon. J'ai aussi besoin d'une femme. Plus j'écris, plus ma bite me démange. Mon besoin de sexe est directement lié à ma puissance créatrice, à la foi en mon génie artistique. Malheureusement, les putains s'en fichent pas mal. et les jeunes filles privées, encore plus. Jacob Bronski ne compte pas. Son art est un manifeste. Il ne bouleverse personne, sauf lui-même. Jacob Bronski est un grand artiste, encore ignoré du public du monde entier. Il est inexact de dire qu'ici, l'amour est uniquement une question d'argent. Celui qui, dans ce pays, désire une fille qui ne tapine pas et qui n'est pas une call girl ou quelque chose dans le genre. Une fille de l'autre espèce, si l'on peut dire. Pour celui-là, l'amour dépend avant tout de l'aura de réussite qu'il est tenu, en tant qu'homme, de dégager.
Si toi, Jacob Bronski, tu devais rencontrer ce genre de fille...
Si toi, Jacob Bronski, tu devais rencontrer ce genre de fille, elle se poserait les questions suivantes.
Elle se poserait les questions suivantes.
Qui est Jacob Bronski? Pourquoi écrit-il dans une langue qui n'est pas...
Quel voyage le mènera-t-il? Que sait-il, c'est Jacob Bronski, de l'American Way of Life?
Sait-il Jacob Bronski, que seul la réussite compte,
et rien d'autre?
Rien d'autre.
Connaît-il les idéaux de nos ancêtres, ceux arrivés avec le premier navire, le Mayflower?
Et que pense-t-il de la culture Coca-Cola? Croit-il Jacob Bronski au rêve américain?
Va-t-il un jour posséder un jour une voiture flambant neuve, des costumes de
prix, une maison à lui dans les quartiers en vogue de l'East Side?
Claquera-t-il ne serait-ce qu'une fois 100 balles en une soirée par pure exubérance?
Pure exubérance, juste pour nous montrer qu'il en a les moyens, m'invitera-t-il à Las Vegas? Va-t-il falloir que je subisse sa bite? Est-ce que ça vaut le coup? Car au bout du compte, je voudrais...
Est-ce que ça vaut le coup?
Je voudrais me marier un jour, puisque c'est ce qu'on attend de moi.
Car au bout du compte, je voudrais aussi divorcer un jour.
Sera-t-il
Jacob Bronski un jour en mesure de me payer une pension alimentaire?
Jacob Bronski,
Jacob Bronski,
Jacob Bronski, tes gribouillages,
tes gribouillages, ta tripe, encore moins.
Douche ta bite à l'eau froide.
Douche ta bite à l'eau froide.
Douche ta bite à l'eau froide.
Impossible de calmer ma bite. J'ai pris une douche froide. Ça n'a servi à rien. J'ai pensé à Auschwitz. En vain.
Bon, écoute-moi bien, ma bite. Alors, on va parler tous les deux. Sérieusement, puisque nous sommes entre nous. Je sais que t'as envie de faire la fête aujourd'hui, parce que nous avons terminé le chapitre 5. Nous y sommes arrivés. Pour dire vite, tous les deux, nous méritons une bonne baise. Mais à quoi bon ? Ton seigneur et maître n'a même plus 10 cents sans poche. Oublie ça. Détends-toi.
Mais j'ai pas envie de me détendre. Trouve-moi une solution, Jacob Bronski. Ne t'ai-je pas aidé à la rédaction du chapitre 5? Ne l'as-tu pas mis sur le papier comme par magie? Et d'où te vient cette force? Qui est derrière ton imagination?
Bordel de merde! Qu'est-ce qui t'arrive, Bronski? D'où te vient un tel désir?
Il y a eu cette secrétaire de direction que j'aurais bien voulu enculer. Secrétaire de direction, elle était. Et même chez le plus grand éditeur des États-Unis, Double Crumb et compagnie. Comment l'as-tu rencontrée?
Essaie de t'en souvenir. Comment tu t'appelles?
Jacob Bronski.
C'est trop long. Ici, on t'appellera Jack.
Ok, je m'appelle Jack.
Écoute bien, Jack. C'est un job facile. Ici, on prépare du café et des sandwichs à la chaîne. Tu piges?
Pigé.
On reçoit sans arrêt des coups de fil des bureaux de Madison Avenue. Tu comprends ça?
Ouais, parfaitement.
Les nanas du bureau sont trop flemmardes pour venir dans la boutique acheter leurs sandwichs ou leur café. C'est pourquoi on les livre au bureau.
Par coursier?
C'est ça. Ben, finalement, t'es pas aussi content d'en l'air. Tu sais lire une adresse?
Ouais, je sais.
Faut savoir que beaucoup de boys savent pas vraiment lire. C'est spécialement vrai des portoricains. Parce que ces putains de boys ont jamais appris l'anglais. Ah, les négros, eux, savent bien lire. Mais ils sont cons et paresseux. Ici, on a 10 coursiers. Tous des négros et des portoricains.
T'es le seul boy blanc.
D'accord.
Notre meilleure cliente, c'est la secrétaire de direction de Double Chrome et compagnie.
Pigé.
Pigé.
Elle peut pas blairer les négros. Les portoricains non plus.
Ok.
Alors à partir d'aujourd'hui, elle est ta cliente. Pigé.
Pigé.
C'était vraiment un job facile. Après quelques jours, je connaissais tous les escaliers et ascenseurs de service de Madison Avenue. Et là, il y avait cette secrétaire de direction qui n'aimait ni les négros ni les portoricains. Peut-être qu'elle avait peur d'eux. Peut-être que la nuit, elle rêvait de leur bite. La menace des bites noires et brunes. Les femmes blanches les désirent, mais interdiction de l'avouer. C'était une belle femme. Ni jeune, ni vieille, avec des gros nichons et des grands yeux. J'ai jamais vu son cul, puisqu'elle se levait jamais. Elle me regardait à chaque fois que je lui donnais son sac en papier. Pourtant, je remarquais bien qu'elle ne me voyait pas du tout. Pendant toutes ces semaines, elle m'a regardé en souriant sans jamais me voir. Et c'est elle que j'aurais bien voulu enculer maintenant. Vas-y, Bronski. Imagine quelque chose. Tu pourrais faire sa connaissance à une soirée, par exemple, une soirée d'éditeurs.
Puis-je faire les présentations ? Voici notre nouvel auteur vedette, Monsieur Brodsky. Un génie. Son livre sortira cet automne et Mr. Double Crumb projette un lancement à grande échelle.
Je suis ravie de vous rencontrer enfin personnellement, Monsieur Brodsky. Nous avons tous lu votre manuscrit, un livre magnifique.
Nous venons de signer pour vous un contrat d'adaptation au cinéma de 200 000 dollars, Monsieur Brodsky.
Nous avons informé l'ensemble des journaux.
Y compris le New York Times ?
Naturellement.
Trinquons à votre succès, Monsieur Brodsky.
Si ça peut vous faire plaisir... Je peux vous raccompagner tout à l'heure ?
Naturellement.
Vous m'inviterez à prendre un verre ?
Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de faire.
Je veux dire, prendre un verre dans votre appartement. Nous pourrions nous mettre à l'aise, puis prendre un peu de bon temps. Qu'en dites-vous ?
Mais dites donc, vous n'allez pas par quatre chemins, Monsieur Brodsky.
C'est ma nature.
Il faut que je réfléchisse.
Ok. Réfléchissez.
Monsieur Brodsky, je vous conseillerais de laisser la secrétaire de direction tranquille.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est la maîtresse de votre éditeur, Mr. Double Crumb. S'il apprend que vous couchez avec sa secrétaire, c'en est fini de vous.
Bordel de merde, vous avez entièrement raison.
Oh, Brodsky, t'auras jamais son cul.
Me voilà, Jacob Brodsky. Seul, debout sur Madison Avenue, peu après minuit, parti de la soirée de bonheur, contrarié. Ma Cadillac, achetée il y a quelque temps avec mes avaloirs colossaux, m'attend silencieusement au bord du trottoir. Je pourrais me mettre au volant, rentrer chez moi, dans mon appartement hors de prix, non loin d'ici, sur Park Avenue. Là-bas, je boirais un vin hors de prix, puis je me déshabillerais. Claqué par le vin, plus très stable sur mes jambes, je mettrai mon costard hors de prix, 200 dollars, dans la penderie, soigneusement, afin qu'il ne se froisse pas. Puis j'irai me coucher. Mais j'en ai pas envie.
Monsieur Brodsky, je vous ai suivi.
Vous n'auriez pas dû.
Il fallait que je vous parle, je n'en pouvais plus.
C'est trop dangereux. Que ferons-nous si Mr. Double Crumb l'apprend ?
Mr. Double Crumb est ivre mort. Allez, montez.
Où allons-nous ?
Chez moi.
Vous ne voulez pas boire un petit café quelque part ?
Non. Nous allons directement chez moi.
Nous pourrions d'abord aller à Greenwich Village, dans un de ces bars d'artistes.
Il n'y a que des artistes ratés dans les bars de Greenwich Village.
C'est vrai.
Je déteste les artistes ratés.
Vraiment ?
Oui. Ils passent toute la journée assis dans un de ces bars à causer d'art. Je n'ai pas la moindre estime pour ces gens-là. Impossible. J'ai de l'estime pour des gens comme vous, Monsieur Brodsky, qui ne parlent pas d'art, mais qui en produisent pour de bon.
Vous avez raison.
Maintenant, nous allons chez moi.
Cette nuit, je vais enfiler la secrétaire de direction. Son cul, pour être exact. Je pense plus du tout à Mr. Doublecrumb. Je suis excité. La secrétaire de direction aussi est excitée. L'excitation nous a coupé la parole à tous les deux. Bronski, n'y touche pas. C'est pas pour toi. D'abord, tu dois claquer un paquet de fric. Car toute Américaine a une idée précise de ce qu'un homme doit dépenser pour elle. Ça dépend de ce qu'elle croit valoir, de son estime de soi, de ses complexes, de son degré de haine des hommes. Mais ça dépend aussi du rôle de la femme dans ce pays, de son éducation qui la prépare à devenir un objet sexuel si précieux dans une société conformiste. Voilà, c'est comme ça, mon cher Bronski. N'y pense pas, Bronski. Ce sera autrement, c'est certain. Après tout, tu es Jacob Bronski, l'auteur vedette de Doublecrumb et compagnie. Et elle, c'est la secrétaire de direction.
Pourquoi vous n'allumez pas ?
Pas le temps.
Mais j'aimerais voir votre appartement.
Pas le temps.
J'aimerais voir vos grands yeux et vos grands nichons.
Pas le temps.
Mais qu'est-ce que vous faites ?
Je me déshabille.
Vous voulez pas boire quelques verres de whisky d'abord ?
Je n'en ai pas besoin. Pas quand je suis allongée sur la moquette avec Jacob Bronski.
Vous voulez dire l'auteur vedette ?
Exact.
Vous voulez que je vous plante ma bite de poète par devant ?
Pas possible. Désolée. J'ai mes règles.
Mais ça me gêne pas ?
Pas possible, vraiment.
Comment voulez-vous qu'on fasse ?
Par derrière.
Par derrière ?
Parfaitement.
Oh, ça fait longtemps que je rêve de votre cul.
Vraiment ?
Oui.
Attendez une minute. Il faut d'abord que je prenne la crème.
Mais elle est où, votre crème ?
Dans mon sac à main.
Il est où, votre sac à main ?
Ici, sur la moquette.
Mais c'est dans une boîte, la crème ?
Non, un tube.
Mais vous arrivez à trouver le tube dans le noir ?
Je l'ai déjà trouvé.
Oh, puis-je vous être utile d'une manière ou d'une autre ?
Non.
Alors, mais qu'est-ce que vous faites maintenant, là ?
J'étale la crème.
Oh, mais qu'est-ce que c'est long, là ?
C'est pas long du tout. Je fais ça bien.
Oh là 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 là.
Voilà. Ça y est. Je suis tout égrémée.
Enfin. L'heure de vérité a sonné. La minute, la seconde, le point zéro. Oh.
C'est le moment.
Aujourd'hui, tu peux pas prendre de petit déjeuner.
Monsieur Bronski.
Ton rayon dans le frigo doit être aussi vide que d'habitude. Mais Monsieur Zelig est là, pour une fois.
Parfaitement, mère. Vous avez l'air d'avoir une sacrée gueule de bois.
J'ai pas beaucoup dormi.
Vous allez encore écrire aujourd'hui ?
Non, pas aujourd'hui. Je suis à sec. J'ai besoin d'un job.
Vous avez quelque chose en vue ?
Ouais.
J'ai entendu dire qu'en ce moment, il y a toujours des jobs. C'est vrai, ça ?
L'été, il y a toujours des jobs. Des remplacements pour les vacances, on finit toujours par trouver.
Même les clodos de Warren Street finissent par trouver du boulot ?
Exact.
Vous allez bien à Warren Street, vous ?
Ouais.
J'y suis allé aussi un temps. Tout au début, mais plus maintenant.
Ah, évidemment. Vous avez un boulot fixe ?
Je ne vous le fais pas dire. N'est-ce pas déjà un peu tard pour chercher du boulot à cette heure ?
Non. Les jobs de nuit ne sont attribués qu'après 4 heures.
Alors vous allez bientôt y aller ?
Je vais décamper.
Pas de job pour les poivrons.
Recherche plongeur. Super job à Coney Island. Qui a envie de travailler 2 jours? Mettez-moi un rang. Chacun son tour. Penchez-vous vers moi et soufflez-moi au visage. Le premier qui est sobre aura le job.
Tandis quoi, mon pote?
Rien.
Personne n'aura le job. On parie?
Pourquoi?
Parce qu'ils sont tous bourrés.
J'ai vu boire personne.
Ils étaient déjà bourrés en arrivant.
Ah, c'est possible.
Je pourrais l'avoir, le job.
Allez, assis.
J'en veux pas. Je vais pas aller jusqu'à Coney Island, c'est trop loin.
T'as raison.
Et pourquoi tu le prends pas, toi, le job?
Parce que moi non plus, hein, j'ai pas envie d'aller jusqu'à Coney Island.
Ah.
Je vais lui dire, moi. Hey, Mickey. Ah.
Bronski. Comment va?
Et moi, je vais bien. Et c'était Job qui merde.
Qu'est-ce qu'ils ont, mes jobs?
Ils sont à chier.
Je te donne ce que je peux, Bronski. Et puis, t'es pas fait pour un job vraiment top.
Ça veut dire quoi?
Pense au Barney Steakhouse. Là-bas, t'as vraiment merdé.
Mais c'était pas un job pour moi, c'est tout.
T'es pas un vrai serveur, c'est ça qui cloche. Tu fais que des conneries et moi, je les emmerde après. T'as envie de bosser comme portier?
C'est quoi, ce job?
Un remplacement, 3 semaines. Travail de nuit, homme honnête, agent différent, doit tenir 3 semaines.
3 semaines, c'est long, Mickey. Je le prends à l'essai 3 jours.
Alors, pas possible, Bronski. C'est un job de 3 semaines. Et toi, tu dois tenir 3 semaines.
Ok.
Voilà l'adresse. Tu dois y être ce soir à minuit.
Ok.
Bronski, ce job est génial. T'étais loin de t'imaginer combien un portier de nuit pouvait se la couler douce. Hein. Personne te surveille, aucune contrainte. L'immeuble est nickel, parc avenue, très bien situé. Tu commences ton service à minuit. Le matin, t'es relevé à 8h pile par un vieil Irlandais qui depuis 30 ans fait la journée et que toutes ses années de service ont rendu à force un peu toqué. Entre-temps, t'as rien à faire, ou presque rien. T'es assis dans le hall sur ton cul paresseux. Fauteuil confortable.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Facile, très facile tout ça. Et puis, il y a ces jolies filles qui passent te voir en robe de chambre pour te filer un pourboire.
Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir.
Serait-ce là ces call girls dont a parlé le vieil Irlandais et qui, dit-on, habitent dans cet immeuble tellement chic? La prostitution n'est-elle pas strictement interdite en Amérique? Ces deux types sont bien habillés. Ils vont sûrement voir des call girls. Tu peux les faire rentrer tranquille, Bronski.
Et donc, petit enculé, si tu fais pas ce qu'on dit, t'es un homme mort.
Je fais tout ce que vous dites.
T'es un terreau, ok? Fils de pute! On va aller faire une petite balade.
On va aller où?
Tu verras bien, enculé.
Ça y est, Bronski. Là où les nazis ont échoué, ces mecs-là vont réussir. C'en est fini de toi. Ils vont te découper en morceaux. Demain matin, on te retrouvera en pièces détachées.
Là, t'as pas plus?
Mais c'est tout ce que j'ai.
Bronski.
Quoi?
Comment t'as pu être aussi con pour travailler comme portier de nuit à New York? C'est un boulot qui craint. Curieusement, j'ai eu moins peur qu'à l'époque, pendant la guerre. Pendant quelques secondes, j'ai même pensé à ma mère et à ce qu'elle aurait dit si elle avait vu ça. J'ai aussi pensé au chapitre 6 qui n'était pas encore écrit.
Les gens sont étonnés qu'il n'y ait pas eu de portier ce matin.
J'imagine bien.
C'est une résidence chic. Ici, il y a toujours un portier jour et nuit.
C'est déjà arrivé, ça?
Ouais, ça arrive fréquemment. Ça fait partie du job.
La nuit seulement?
Le plus souvent la nuit, mais parfois aussi le jour.
Ça vous est déjà arrivé?
Quelques fois. Vous saviez que le portier de l'immeuble d'à côté était assassiné il n'y a pas longtemps?
Non.
C'était dans le journal. Un article très détaillé avec photo et tout.
Il y avait quoi sur la photo?
Un portier sans tête.
Malgré ça, j'ai continué le service de nuit. L'Irlandais, celui du matin. Le troisième service, de 4h à minuit, était assuré par un Sicilien.
Salut.
Salut.
Alors, ça s'est bien passé?
Oh, super.
Ouais.
Peu de temps après l'avoir rencontré, il m'a dit...
Ah, Bronski, tu veux te faire un peu d'argent en plus?
Bien sûr, hein.
Il y a un vieux consul qui habite dans l'immeuble. Il est paralysé en fauteuil roulant. Tu n'aurais pas envie de l'amener tous les jours à sa banque à 9h précises? Avant, c'était ma femme qui le faisait, mais là, elle est au 9e mois. Le vieux consul paye $3 pour le job. $3 par jour.
Ok.
Quand j'ai sonné chez lui, la porte s'est ouverte. Une vieille femme a poussé le consul sur son fauteuil roulant dans le couloir. J'ai poussé le consul jusqu'à sa banque, au coin de la 58e rue et de Madison Avenue. Là, tout le monde était au courant. Un des employés de la banque m'a fait signe. Il m'a montré le bon guichet, ainsi que la fille qui s'occupait du consul. J'ai attendu un peu, à l'écart, que la fille ait fini de servir le consul. C'est à ce moment-là qu'un premier soupçon m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'il a été consul à Berlin. Peut-être même en 1939. Peut-être, simple supposition là encore, il n'a pas été simple consul, mais consul général. Quand je suis ressorti dans la rue et que j'ai roulé avec lui, j'étais à peu près certain de qui j'avais devant moi. Le consul général des États-Unis d'Amérique. Bronski, un petit accident s'impose. Tu vas pousser le fauteuil roulant par-dessus le bord du trottoir. Un mouvement rapide comme l'éclair. Une voiture qui passe et le toit est joué. Bronski, tu dois assassiner le consul général. Moi, Jacob Bronski, je n'ai pas assassiné le consul général. Grâce à l'argent accumulé pendant mes 3 semaines de remplacement comme gardien de nuit, j'ai pu me remettre à l'écriture du branleur. Je travaille obstinément, méthodiquement, nuit après nuit, buvant beaucoup de café et fumant ma ration normale de cigarettes. Le branleur progresse.
Qu'est-ce que tu glandes dans la rue à cette heure?
Je rentre chez moi.
C'était Fuck America de Edgar Eisenrath. Première partie. Traduction, Jörg Stigan. Adaptation, Julien Douminck. Avec Quentin Bayot dans le rôle de Jacob Bronski.
$7 la gâterie.
Bah, t'es pas portoricaine.
Et
elle, c'est pour cette.
Marc-Henri Boisse. Moi,
Vincent Schmitt.
Mélissa Barbeau.
Didier Sauvegrain.
Comme quoi?
Julie Pouillot.
Sylvain Clément.
Vincent Grasse.
Sébastien Faglin.
Miguel Mirtchev.
Hervé Furic. Ah ouais.
Nathalie Canouille.
Florence Giorgetti.
Pauline Ziadé.
Sylvain Levitt.
Jean-François Pauvros.
Ah, c'est vrai.
Jacques Poiterrier.
Mon cul te plaît.
Juliette Plumecoq-Mèche.
François Sienner.
Olivier Martineau.
Emeline Bayard.
Jean Cotrel.
Steve Chencheux.
Emiliano Suarez.
Christophe Wright.
Rudy Galefi.
Simona, Mike Anescu.
C'est pas de bol pour toi.
Je parie que ça fait un moment que t'as pas de fille.
Bah, tu te gourres. Je baisse toutes les nuits.
Et les voix de Charles Clément, Anna-Amélie Heinz, Michel Baladi, Delphine Augereau, Bob Eisenstein, Marie Constant, Talever Chibovski, Michel Bagevel, Aurélien Osinski, Philippe Mambon, Henri Alexandre, Myrène Astré et la voix de Thierry Beauchamp.
$3.
Bruitage, Patrick okay. Martinache. Création sonore et musicale, Dominique Massa. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminck, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, François Christophe.
J'ai pas de zip, que des boutons.
Fuck America de Edgar Eisenrath est publié aux éditions Attila.
Pour $3, je te fais qu'une pipe.
Ok.